Religion en regard sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers amis de Radio Alliance Plus et chers amis de l'Université Populaire des Religions qui peut-être nous écoutez aujourd'hui parce que vous savez que Religion en regard s'inscrit dans l'Université Populaire des Religions qui a été créée l'an passé par Claire Déménard. Et donc nous poursuivons nos rencontres comme nous avons l'habitude de faire chaque mois, soit avec des personnes qui font partie de l'Université Populaire, qui sont au conseil d'administration, par exemple, ou bien des invités qui viennent parler, qui viennent donner des cours. Et alors, ce jour-ci, tout maintenant, j'ai l'occasion de parler avec un des membres du CA, qui est Jacques Jaume. Bonjour Jacques Jaume.
Eh bien, je vous souhaite une belle journée, je reste toujours votre bien-évoué, et je vous dis bonjour à tous, et je te remercie de ton invitation.
Voilà, merci. Moi aussi, je suis contente que tu sois avec moi. Je viens de te tutoyer, mais nous avons quand même pour objectif de se vouvoyer,
alors,
même
je vais
si nous
te
nous connaissons. Donc, nous allons essayer de faire les choses professionnellement, comme nous sommes, puisque Jacques Jaume, vous êtes médecin à la retraite et nous allons en parler tout à l'heure, mais vous êtes aussi producteur des émissions « Votre santé, un trésor » et une toute nouvelle émission qui vient de sortir du chapeau et qui s'appelle « Et si on parlait ?». Voilà, toutes les deux sont produites par Radio Alliance Plus, diffusées largement et vous pouvez les écouter et écouter les podcasts de Jacques Jaume donc. Et puis vous êtes membre du conseil d'administration de l'Université Populaire des Religions.
De Nîmes.
Voilà, plusieurs titres.
Oui, je suis un livre à moi seul avec tous les titres et les chapitres.
Voilà, donc on va commencer par parler de vous, de ce qui a été votre vie un peu. Pas dans tous les détails, parce que c'est une longue vie, surtout une longue vie de médecin,
je
il y en a
vieux,
beaucoup
oui.
à dire. Mais peut-être la première chose qui me vient à l'esprit, ça serait, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes médecin et qu'est-ce qui vous a amené à être médecin, à choisir cette voie?
Alors, on est médecin dès qu'on commence, on est médecin quand on est étudiant, puis on devient médecin quand on rentre à l'hôpital, qu'on est externe, on est médecin, on n'est pas docteur en médecine. Et donc j'ai passé ma thèse en 88. Le sujet c'était hypnose collective et texte psychologique. C'était un travail de psychiatrie pure, de recherche, qui démontrait que, avec Gérard Fuchs, qui était mon maître en psychiatrie, et qui démontrait que n'importe qui pouvait être hypnotisable, alors qu'à l'époque, seuls les hystériques étaient considérés comme hypnotisables. Donc c'était un travail de recherche. Donc, du moins qu'on passe la thèse, là on devient docteur en médecine et on peut pratiquer. Mais c'est pas ça, donc 88. Mais pour pratiquer, en France, il faut d'abord être diplômé. Donc c'est le seul, il faut avoir un doctorat en médecine. Il faut être français, il ne faut pas avoir de fait de crime, etc. Donc avoir un cahier judiciaire vierge. Mais ce que les gens ne savent pas, donc c'est pour ça que je le dis, il faut être inscrit à l'ordre des médecins et être qualifié par l'ordre des médecins, si on ne peut pas travailler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est docteur en médecine, qui va faire du laboratoire pendant 10 ans. S'il va demander de s'installer comme médecin généraliste, l'ordre va refuser parce qu'il pourra pas être qualifié. Enfin, il demandera de se remettre au goût du jour, mais comme il n'a pas pratiqué, il n'est pas qualifié. Je connais quelqu'un qui a 80 ans, qui voulait redevenir médecin, l'ordre ne l'a pas qualifié, il ne peut pas faire de la médecine. Ça, on le sait peu. Donc, depuis les années 90, je suis médecin.
Voilà. Donc, c'est bien d'être reconnu par ses pairs. C'est important. C'est important d'être bien, bien ancré dans sa médecine et d'être reconnu par les autres. Et donc, vous avez des spécialités médicales que vous avez développées après avoir commencé à être médecin. Et alors, médecin où, d'ailleurs? Je n'ai pas posé la question.
Ma carrière n'est pas une carrière, c'est un couteau suisse. Parce que ce n'est pas des casquettes que j'ai, c'est un magasin en casquettes. Pourquoi? Parce que l'ambiance médicale de l'époque n'est pas du tout la même qu'actuellement. Ça n'a rien à voir. Avant, il y avait... actuellement, il y a beaucoup de médecins. C'est une période où il y a le plus de médecins. Mais ils ne pratiquent pas tous. Alors qu'à l'époque, on faisait médecine pour pratiquer. Donc il y avait beaucoup de médecins, si vous me permettez, sur le plan du travail. C'est-à-dire qui travaillaient. Alors, il fallait trouver des niches. Alors, il y avait la médecine générale que j'ai fait en remplacement, etc., quand j'étais interne, tout ça. Puis je me suis vite aperçu qu'il y avait la médecine un peu de dactari, hein, c'est-à-dire pour les anciens, un peu de sauvage, qui est la médecine de ville, et puis la médecine de zoo, qui est un peu la médecine hospitalière. Et en fait, j'ai fait les deux. Mais si on fait de la médecine générale pure, au bout de 4 ans, on ne fait plus que la médecine générale pure. Alors, donc, j'ai essayé d'avoir des formations et j'ai été intéressé par l'hypnose. L'hypnose m'a amené à la prise en charge de la douleur parce qu'il y avait un certificat universitaire que Gérard Fouque m'a dit, il faut que tu passes, il y avait la sophrologie qui se rapproche de l'hypnose. Donc je suis arrivé à la douleur et j'ai représenté le service de psychiatrie à la douleur. Et de là, je suis devenu algologue, c'est-à-dire spécialiste de l'évaluation et traitement de la douleur. Pour quand même, c'était un peu nouveau, c'est une spécialité qui naissait, il n'y avait pas de reconnaissance. Donc j'ai préparé une maîtrise de biologie humaine en neuroanatomie, neurophysiologie pour m'asseoir au niveau scientifique et pour... Comme j'étais intéressé et que je voulais, j'ai préparé un diplôme en 3 ans qui est une vraie spécialité d'acupuncture avec Jean Bossy. Et puis, comme je voulais être diplômé d'autres universités, j'ai fait les pharmacies avec la phytothérapie, etc. Donc voilà, j'ai fait de l'expertise. Donc ça, c'est en rapport avec la médecine. Puis j'ai fait d'autres études, notamment en histoire médiévale. Voilà, actuellement, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la novation. Hein. Par exemple, les soins palliatifs, on n'en parlait pas. Et c'est un peu, j'étais un peu dans le courant des novateurs à Nîmes, dans les soins palliatifs. Ça fait que ma principale activité des praticiens, c'était prise en charge de la douleur et soins palliatifs. Mais je suis, par exemple, reconnu comme thérapeute en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, je faisais des suivis psychothérapeutiques, etc. Puis, j'ai été enseignant universitaire, parce que l'université, j'avais des compétences. Puis, j'ai eu une carrière aussi syndicaliste, ordinale. J'ai été élu à Loire pendant 30 ans. J'ai été élu, j'ai une carrière élective au niveau de la profession, donc j'avais des compétences administratives, tout ça, ça fait que j'ai fait beaucoup de choses, et oui. Jusqu'à la radio.
Voilà, un large éventail de ce que est Jacques Jaume, un peu en raccourci ici à la radio, évidemment. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, il faut le rencontrer, soit à la radio, soit ailleurs. Vous verrez, n'est pas que là, mais il est dans beaucoup d'autres endroits, et je pense que vous aurez l'occasion.
Vous pouvez m'écrire, parce que j'ai un site d'auteur, parce que j'écris beaucoup, donc voilà. J'ai un site d'auteur, donc vous avez Dr Jacques Jaume, vous avez un site, il y a un contact, et vous m'écrivez, je vous répondrai.
Voilà, très bien. Donc, et puis vous en saurez beaucoup plus que maintenant, mais ça montre la diversité de vos centres d'intérêt, comment vous êtes curieux de beaucoup de choses, curieux des autres aussi, et curieux d'avancer dans une profession et d'aller là et là et là, dans plusieurs endroits. Ça fait un tout quand même, la médecine, hein, c'est pas qu'une spécialité. C'est beaucoup d'autres choses. Et là, nous l'avons entendu avec vous, et je trouve que c'est très intéressant. Alors, peut-être que nous allons faire une petite pause de musique. Et justement, comme vous vous êtes intéressé à la personne humaine dans toute sa complexité, que ce soit psychologiquement, je dirais, et puis physiquement, la douleur, c'est pas rien, c'est quelque chose de très important. Vous nous avez proposé une chanson de Léa Morel qui s'appelle « Si tu comprenais ». Et je trouve que ça rentre bien dans vos objectifs de comprendre l'autre.
Voilà, si vous m'avez demandé de choisir, je pouvais faire de musique classique, ou musique peut-être plus portée à la méditation. Mais Léa Morel est la chanteuse que je préfère actuellement dans un courant de musique, ce qu'on appelle « émotionnel ». Qui est prisé, il y a beaucoup, il y a Slimane aussi, il y a beaucoup de dames. Et la chanson m'intéresse parce qu'il faut voir les paroles, elles sont accessibles sur Internet, et vous verrez que c'est quelque chose qui est médical, mais dans le besoin de l'autre, hein, c'est-à-dire dans le besoin d'écoute et le besoin de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai choisi.
Oui, c'est très bien. Je pense que ça va très bien. Donc, c'est « Si tu comprenais » de Léa Morel, que je ne connaissais pas du tout, et que vous m'avez fait découvrir Jacques Jaume, et peut-être à d'autres auditeurs et auditrices. Alors, nous l'écoutons et nous revenons juste après ensemble pour continuer notre conversation.
Si tu comprenais tout ce que j'ai caché, si tu comprenais, Si tu comprenais, si tu comprenais mes réveils glacés. Si tu comprenais mes nuits fracassées. Si tu comprenais mes silences brisés. Si tu comprenais tout ce que j'ai porté. Si tu comprenais tout ce que j'ai porté, si tu comprenais, si tu comprenais tout ce que j'ai traversé.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2 et vous savez que vous pouvez nous écouter aussi en DAB+, maintenant, et puis surtout écouter nos podcasts, et ils sont nombreux et variés, et vous pourrez écouter ceux de Jacques Jaume que je reçois aujourd'hui pour Religion en regard, qui est une émission où nous parlons de religion mais au sens très large, puisqu'il s'agit de parler aussi de l'Université populaire des religions. Et j'en viens à faire le lien, Jacques Jaume, entre votre métier de médecin, très varié, et cette université populaire dans laquelle vous êtes membre du conseil d'administration. C'est donc que ça a fait tilt en vous. Et dites-moi comment ça a fait tilt.
Mais, dès la première partie de l'émission, j'expliquais que la principale orientation professionnelle, c'était quand même la prise en charge de la douleur. J'entamais la douleur chronique, hein, c'est-à-dire les gens qui ont mal plus de 3 mois. Hein, et des grosses maladies, quoi, les cancers, etc. Ce qui m'a amené à faire des soins palliatifs, c'est-à-dire accompagner des gens qui meurent. Et j'accompagnais des gens jusqu'au bout. Alors, on est confronté, il y a des spécialités différentes, la dermato, il y a des pathologies très graves en dermato, mais enfin, le commun, c'est pas... Là, moi, j'ai été confronté à des patients qui étaient toujours, excusez-moi l'expression, mais de gros patients, c'est-à-dire des patients importants. Quand vous avez des douleurs pendant 20 ans, ça modifie complètement une personnalité. Donc, il y avait toujours le pourquoi moi, la question de l'existence de la souffrance, hein, c'est... Et puis j'avais des douleurs et des souffrances, si vous voulez. On a mal quand c'est physique et on souffre. Par exemple, la soif est une souffrance, mais le traitement, ce n'est pas la morphine. Bon. Et puis, avec mon orientation thérapie cognitive et comportementale, j'ai suivi beaucoup d'endeuillés. Et puis, je l'ai dit à la première partie, je me suis investi dans les soins palliatifs. Donc, dans les soins palliatifs et les pathologies que j'ai pu l'occasion de suivre, On est confronté à l'être humain dans sa globalité somatique, c'est-à-dire le corps, le psychologique, qui est nouveau, quoi. La psychologie, ça a 200 ans, 300 ans. Mais aussi la méditation, le spirituel et le religieux. Alors, vous allez peut-être me demander, mais la différence entre spirituel et religieux. Alors, la différence entre spirituel et religieux, pour le médecin que je suis, la spiritualité, tout le monde l'a. C'est-à-dire, c'est expliquer le beau. Vous regardez la nature, vous êtes frappé par le beau, et vous dites, il y a quelque chose de transcendant, et je vais mettre en relation avec ce transcendant. Donc ça, c'est peut-être le spirituel. Le religieux, c'est déjà dire... Ce transcendant a pu être conçu par quelque chose, par quelqu'un, par une entité, et c'est la religion, c'est la relation avec une divinité. Donc je ne fais pas la différence entre les religions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la religion. Et puis j'ai été frappé aussi avec mes patients, parce que c'est mes patients qui m'ont appris à faire la médecine. Mes maîtres m'ont appris à apprendre, ils m'ont inculqué quelques données de médecine, mais surtout ils m'ont appris à apprendre. Et ce sont mes patients qui m'ont appris la médecine. Et je profite ici de les remercier. Parce que chaque rencontre, même si c'est des patients que je voyais régulièrement, c'était un miracle, disons-le, osons le dire. C'est un miracle, c'était chaque rencontre, chaque consultation, pour moi, était un événement et miraculeux, parce que chaque fois, on a retiré quelque chose. Bon. Et donc, ce côté religieux, je me suis aperçu qu'en fait, tout le monde croit. Alors évidemment, les gens me disent « Non, moi, je suis un incroyant. » Mais les gens croient, c'est-à-dire qu'il y a une physiologie de la croyance chez l'être humain. Même si on croit à rien, on croit à rien. C'est-à-dire qu'on croit, mais qu'il n'y a rien. Voilà. Et donc, le phénomène religieux m'a toujours passionné. Puis, j'ai vu des gens confrontés aux questions du religieux.
Très bien.
À un moment de leur mort.
Oui, ça se relie très
même
bien.
Même avant.
Et donc, vous avez rencontré quelqu'un en particulier qui vous a parlé de l'Université populaire des religions l'année dernière. Comment ça s'est fait, votre entrée en université?
Le phénomène religieux m'intéresse, l'histoire des religions m'intéresse, la multitude des religions, que ce soit la religion hindoue, musulmane, m'a intéressé, j'ai su qu'il y avait ça, je suis investi, j'ai un peu l'habitude des groupes avec l'ordre, syndicat, etc., le côté administratif. Bon, j'ai l'étiquette de médecin, soins palliatifs, c'est-à-dire les derniers moments où le spirituel et la religiosité se posent quand même. Moi, j'ai mes patients me disaient, mais vous qui avez l'habitude, alors il y a une déontologie où on dit, mais c'est votre chemin. C'est pas, je peux vous tenir la main pour traverser la rivière, mais c'est pas à moi de traverser la rivière, c'est pas à moi. Je crois que c'était pertinent et que c'était un outil dont les gens, et par rapport à l'expérience que j'avais avec mes patients, avaient besoin. Parce qu'il y a un vide religieux. Les gens ne savent pas ce que c'est que la religion. Il y a un vide religieux. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, qui sont pratiquants, comme on dit, d'une religion, évidemment, ce vide n'existe pas. Mais ils sont de plus en plus minoritaires. Et chez mes patients, je ressentis un besoin. Ils me demandaient de parler de, par exemple, l'histoire des religions. Pas forcément. Et donc là, il y a eu ce projet qui me paraissait très opportun et à mettre en place. Même si je ne suis pas théologien, spécialiste, je suis intéressé, je fais beaucoup d'anthropologie, j'utilise la méthode médicale pour faire de l'anthropologie, et dans l'anthropologie, on ne peut pas faire l'impasse sur la religion. Donc ça m'intéressait, c'est un peu comme ça qu'on m'a demandé, l'université et moi, on s'est rencontrés, c'est un peu avec ma connaissance du groupe, de la gestion, parce que j'étais enseignant, en psychologie notamment, etc., et en sciences humaines et sociales. Je fais partie d'un département de sciences humaines et sociales à l'Université de Montpellier en médecine. Donc tout ce versant, avec des qualifications, si vous me permettez, avec un peu de vanité sur la gestion de groupe, etc. Et puis ne pas être un intervenant intermédiaire, mais d'être un fournisseur de besoins, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, je témoigne et j'essaie de représenter les gens qui ont besoin du support que va donner l'université. Donc c'est un peu dans ce sens. Je suis un peu un deuxième couteau, si vous voulez. Hein, voilà.
D'accord.
Je suis un peu un deuxième couteau, mais les deuxièmes couteaux sont quand même intéressants parce que j'essaie de représenter ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire le besoin d'apprendre ce qu'est la religion et de la recherche, mettre le pied à l'étrier, et puis après les gens font leur promenade à cheval comme ils veulent. Quoi, voilà.
D'accord. Donc pour vous, cette université... qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle... Quels sont un peu les objectifs, l'objectif principal?
Alors, ce n'est pas à moi de définir les objectifs de l'université, mais elle les a bien définis. C'est une université...
Qu'est-ce que c'est pour vous?
Voilà, c'est une université qui ne fait pas de prosélytisme, etc. C'est une université... Alors, il y a quatre courants religieux qui sont principalement représentés parce qu'ils représentent la presque la quasi-totalité des Nîmois et du Gard, quand même, puisque c'est l'Université populaire des religions de Nîmes. Bon, mais c'est le courant de l'islam, le courant de judaïsme, le côté protestant et le côté catholique. Bon, mais je crois que l'université ne s'interdit pas ponctuellement ou suivant les besoins à aborder d'autres religions, ou simplement pour les définir, pour informer, etc. Mais c'est ces quatre courants qui sont pour faire connaître et surtout pour qu'il y ait un dialogue entre les différents courants religieux.
Et ce sont ces quatre courants qui font donc partie du conseil d'administration qui sont représentés.
Alors, oui et non. Le conseil d'administration, oui, c'est qu'il y ait une représentation, puisqu'il y a des... Mais moi, je ne suis pas en tant que représentant d'une religion. Je suis en tant que médecin, en fait. Hein.
Mais, non, mais je dis ça pour les autres religions que vous avez nommées. Judaïsme,
oui, il y a
islam,
dans le conseil d'administration, il y a représentants de l'islam, du judaïsme, catholique et protestant. Mais oui, en voilà. Plus, l'université a une structure spécifique. Le conseil d'administration essaie de faire donner les moyens au bureau de faire respirer l'université. Si vous voulez, le conseil d'administration administre et permet au bureau et au président, qui est le pasteur François Claveroli, de faire vivre, de faire respirer l'ensemble de l'université. Hein. Mais aussi, à l'université, il y a une composante qui n'est faite que par des religieux, mais là avec une autorité religieuse. Hein, voilà, là ils ont une autorité religieuse.
Donc ça permet de croiser les religions.
Et
ça,
surtout ça, de se rencontrer.
Voilà, et d'ouvrir les horizons de chacun, comme vous l'avez fait aussi pour votre métier, où vous avez ouvert plein d'horizons de toutes sortes. Et donc là on se retrouve bien dans cet ensemble où nous allons, je dis nous, parce que je suis toujours très partie prenante avec cette université, et donc j'en parle comme si c'était la mienne, presque, bientôt.
Mais elle est à tout le monde, donc elle est à vous, comme elle est à tout le monde.
Oui, voilà, c'est ça. Donc nous invitons tout un chacun, à venir nous retrouver et à ne pas se lasser, parce que le conseil d'administration travaille toujours, et beaucoup, et ah oui. Nous allons vous donner quelques informations pour terminer, parce que vous vous êtes réunis, Jacques Jaume, avec les membres du conseil d'administration, très récemment d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'était bien lundi dernier, le dernier CA. J'ai quelques informations de la part du président lui-même. Ne vous affolez pas, chers auditeurs et auditrices.
C'est important, c'est le président qui préside.
Nous sommes ensemble pour...
Le conseil d'administration et ses membres ne sont que des serviteurs voilà. Du bureau, et c'est le président qui préside.
Oui. Après, c'est un président qui comme vous l'avez nommé, François Claveroli, qui a une longue carrière de présidence, eh bien, puisqu'il oui. A été président de la Fédération protestante de France. Donc, c'est vrai qu'il est la personne ressource. Hein.
Oui, c'est le représentant, c'est lui qui est président.
Voilà, et tout un chacun qui a été, élu, va contribue à travailler ensemble. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y allait y avoir sans doute d'autres membres qui vont arriver. Il y en a quelques-uns qui sont pressentis. On ne va pas dire qui encore, parce qu'on ne peut rien dire avant l'Assemblée Générale. Elle aura lieu quand, Jacques Jaume, Assemblée Générale?
Il faut demander au président. Moi, je ne suis pas...
D'accord.
Il faut demander
au
président Claveroli, il vous dira toutes les informations.
D'accord. Alors, je vais transmettre, parce que François a eu la générosité de m'en dire un peu plus que Jacques Jaume, qui, c'est bien normal, faisant partie du conseil d'administration, n'a pas le droit de diffuser sans le président. Le président... François Claveroli m'a donné la permission, si vous permettez. Je vais juste en dire quelques mots pour terminer, pour que les gens ne restent pas sur leur faim, mais qu'ils sachent bien que l'Université populaire des religions continue, qu'elle ne s'est jamais arrêtée de travailler et qu'elle est en train de préparer l'Assemblée générale qui aura lieu lundi 15 juin à 18h30 à la maison diocésaine. Il y a un parking, donc c'est très facile pour se garer. Et donc là, il y aura l'occasion d'en dire plus. Vous en saurez beaucoup plus sur les projets qui vont se poursuivre à partir de septembre. où il est question d'une inauguration officielle, septembre, octobre, avec le maire de Nîmes, dans un endroit très agréable, paraît-il, je ne vous en dirai pas plus. Et puis bientôt, vous allez avoir des informations plus concrètes par la newsletter que vous allez recevoir, et vous pourrez aller sur le site pour tapoter et en savoir plus aussi sur l'Université populaire des religions. Voilà tout ce que moi j'avais à dire.
Oui, mais c'est très très bien.
Est-ce que vous pourriez, juste pour conclure trois minutes, voilà, dire votre sentiment sur l'Université populaire, ce que ça vous apporte à vous personnellement?
Ah mais moi, j'ai toujours aimé créer, si vous voulez, mettre à l'eau, si vous me permettez. Naviguer, c'est pas pareil. C'est bien de mettre à l'eau et de voir. Et donc, c'est une excellente idée, c'est un excellent outil, si vous me permettez. Bien évidemment, un outil, non pas intellectuel, bien qu'il soit, mais un outil spirituel de recherche, de questionnement, de relationnel, de rencontre, d'écoute, d'écoute de l'autre, d'écoute des cheminements de l'autre, qui colle parfaitement à ce que j'ai essayé de faire, que j'ai jamais réussi, parce qu'on essaie toujours d'être médecin, on n'y arrive jamais. Mais par rapport aux gens que je rencontrais, c'est-à-dire que quand il y avait quelque chose d'une décision médicale urgente, ben c'était à moi de la prendre évidemment. Mais c'était surtout l'autre, je le laissais dans son cheminement, suivant les pathologies. Ben lui, il y avait une péritonite, j'appelais le centre 15 pour voir qu'il y ait une intervention. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est pas, je suis un ancien cavalier, donc c'est de donner de la liberté au cheval, de donner de l'équilibre, qui donner du plaisir à deux avec le cheval. Et la relation, la rencontre, c'est ça. C'est surtout, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vous qui m'avez invité, donc c'est pour que je parle. Mais c'est donner plus de place à l'autre que celle qu'on veut prendre. Hein. C'est donner plus d'espace à l'autre. Donner de l'espace et des moyens d'être. Donner des moyens d'être, je trouve que c'est un beau cadeau. Et puis ça coûte pas cher, quoi. Donc c'est accessible à tout le monde. Donner le moyen d'être, c'est accessible. Il suffit d'être gentil et d'éclairer.
Ouais. Et c'est bien à l'Université populaire, il y a beaucoup d'occasions d'entendre des voix différentes.
C'est comme ça que je la conçois, et on est à l'écoute de tout le monde, et tout le monde peut s'exprimer dans ses opinions religieuses en toute liberté. Je trouve que c'est un très beau projet qui fera date. Et puis, bon, il faut le temps que ça se mette en place, que ça prenne, qu'il y a des mesures à prendre, des espaces à occuper ou à laisser. Enfin, tout se fait. C'est comme un arbre qui pousse. Hein. Il faut qu'il trouve les bons rayons du soleil, le bon espace pour s'épanouir. Mais je pense que c'est une structure qui est en train de... C'est une personnalité. C'est pas une structure, c'est une personnalité, parce qu'on est dans un domaine de l'humain qui n'est pas que le savoir... rationnel, c'est espéré. Il y a quelque chose aussi de magique. Hein. Certains des participants croient au surnaturel. Donc, c'est quelque chose qui est important et qui donnera beaucoup. Et ce sera un modèle, je pense. Donc, ouais. C'est pour ça que ça me passionne.
Ouais. Donc, c'est de l'humain. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti, vous l'avez compris par Jacques Jaume, qui est médecin. Et donc, ça lui tient à cœur. Et ça se trouve tout à fait, et nous sommes très heureux que vous fassiez partie de ce conseil d'administration et vous soyez
avec
François Claveroli et les autres.
Et les autres, oui, les autres. Et les futurs autres.
Voilà. En tout cas, Jacques Jaume, je vous remercie d'être venu à Radio Alliance Plus, votre radio,
merci à vous,
d'une
Christiane.
Certaine manière, et qui va diffuser donc ces nouvelles aujourd'hui. Et puis nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec vos émissions.
Et je vous remercie.
À l'Université populaire des religions, bien
merci
sûr.
Infiniment. Merci infiniment.
À une prochaine
beaucoup.
Fois, Jacques.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.